L'âge bête sur RCN.
On se retrouve sur l'émission L'âge bête sur RCN Radio. Et en ce 22 janvier, il fait un temps ensoleillé à Pont-à-Mousson au lycée Marquette. Et nous retrouvons l'équipe de cette semaine. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, nous avons Louise qui va nous parler de contes.
Exactement, je vais parler de Senna, la déesse inuit des océans.
D'accord. Et ensuite, nous avons Tess qui nous parle de affaires criminelles.
Et aujourd'hui, je vais vous parler de la secte du Temple du Peuple.
D'accord. Et Antonin nous parle, c'est toujours quiz général. Toujours. Et nous avons Margot, tu nous parles de
Des Nutri-Score.
D'accord.
Voilà.
Nous allons entendre parler juste après. On se retrouve juste après.
RCN, l'âge bête.
Louise, tu nous parles de contes.
C'est ça, donc comme je l'ai dit précédemment, je vous parle de Senna, la déesse inuit des océans. Alors qu'aujourd'hui, les skippers du Vendée Globe franchissent un an la ligne d'arrivée après Charlie Damin la semaine dernière, je vous le rappelle, je vous propose de plonger dans la légende du Grand Nord pour rencontrer une des figures fascinantes de la mythologie inuit, Senna. C'est une déesse des mers et des créatures marines. Donc c'est une déesse qui est vénérée par le peuple de l'Arctique, les Inuits. Elle incarne les océans glacés et les êtres qui y vivent. Et c'est vraiment... son histoire est assez tragique. Donc, selon la légende, elle serait une femme d'une grande beauté qui vivrait avec son père qui est chasseur ou pêcheur, suivant les récits. Et elle ne veut pas épouser d'homme parce que une version dit qu'elle est orgueilleuse ou une autre, c'est surtout qu'elle ne veut pas se marier par caprice et pour rester libre, en fait. Mais son père, il va la contraindre à se forcer avec un bel homme qui lui promet monts et merveilles. Sauf que quand elle arrive, elle se rend compte que cet homme est en fait un oiseau et qu'elle va devoir vivre dans un nid misérable et se nourrir de poissons crus. Donc, comme c'est pas une surprise, mais elle n'apprécie pas fortement cette vie de rêve. Et du coup, elle appelle son père à l'aide pour venir. Il vient la chercher en bateau pour la ramener chez eux. Mais lorsqu'il s'éloigne, étant donné que le mari peut se transformer en oiseau, il est magique, il est furieux et il invoque une tempête pour pouvoir les poursuivre parce que il l'a mariée, donc il considère que cette femme lui appartient. Donc face aux vagues déchaînées et aux dangers de chavirer, le père de Senna prit une décision terrible, il va pousser sa fille à l'eau. Pour pouvoir se sauver. Et donc Senna va tenter de s'accrocher au bateau, mais son père, qui ne veut vraiment pas couler, décide de se débarrasser d'elle en lui tranchant les doigts.
Ah, c'est horrible.
Et c'est de là que viennent les créatures marines de l'océan. Ce seraient les doigts en fait de Senna qui se seraient réincarnés
en monstre,
exactement.
C'est glauque.
Et donc elle se métamorphe en une divinité puissante qui va régner sur les créatures et s'installer au fond de la mer dans une caverne sous-marine. Elle devient gardienne des ressources marines, et si l'humain traitait la mer avec respect, elle leur permettrait de chasser et de survivre. Mais si on lui manque de respect, elle se sent négligée, et du coup, elle va retenir les animaux marins et provoquer des tempêtes pour punir les pêcheurs. Donc dans la culture inuite, les chamans, qui jouent un rôle essentiel avec ce lien avec Senna, du coup, parce que c'est eux qui vont s'occuper d'elle si elle est pas bien. Donc dans cette culture, quand il n'y a pas de chaman, ça veut dire que Senna n'est pas de bonne humeur et qu'il lui coiffe les longs cheveux. Et donc il faut éviter d'aller sur la mer. Donc lorsque nos skippers du Vendée Globe, ils ont traversé et traversent les mers les plus redoutables, Senna, elle pourrait presque incarner cette force assez mystérieuse de l'océan qu'ils affrontent. Et à l'image des chasseurs inuits, ils doivent respecter la mer et ses caprices et ses mystères pour espérer la traverser. Donc c'est vraiment une histoire importante parce que c'est la personnification de l'équilibre en fait entre l'homme et la nature. Ça nous rappelle que la nature elle nous nourrit, mais qu'elle exige aussi notre respect et notre humilité. Je pense notamment à ces continents de déchets sur l'océan. Et il m'a semblé important de rappeler que l'océan est à protéger comme notre environnement.
C'est un beau message à dire à nos
auditeurs. Je suis totalement d'accord.
On est vraiment très d'accord sur ça. C'était tout ?
Oui, c'est ça. C'est la petite histoire. Donc, c'est de la culture inuit et il existe plusieurs variantes puisque c'est un conte. Donc, suivant les variantes, il y a plus ou moins des différences. Mais l'histoire globale, c'est
d'accord. ça. D'accord. L'histoire, elle était assez diversifiante. On a eu un peu de tout. C'était sympa. Merci beaucoup, Louise. Et nous parlons de affaires criminelles avec Tess.
Donc, je vais vous parler de Jim Jones, qui a fondé la secte du Temple du Peuple. Donc, il est né dans l'Indiana en 1931, dans un milieu très pauvre. Il a grandi dans un milieu religieux. Dès l'adolescence, il se met à prêcher auprès des autres enfants et il est membre de l'église. À 19 ans, il épouse une infirmière. Intéressé par le milieu médical, il va abandonner peu à peu ses convictions religieuses au profit du communisme. Il décide ensuite, en 52, de devenir pasteur. Il aura changé beaucoup de convictions. Toutefois, Jones y conserve une constante, celle de vouloir regrouper les Noirs et les Blancs dans une seule église. Malgré l'opposition des deux communautés, le pasteur ouvre une première église dans un quartier d'Indianapolis, baptisé en 1955 le Temple du Peuple.
Jusque-là, ça paraît être une bonne action.
Oui. En 59, l'organisation, elle va rejoindre l'église chrétienne des Disciples du Christ, ce qui va lui accorder une certaine crédibilité. Le couple Jones va diriger et utiliser des méthodes fallacieuses, mais qui vont être quand même astucieuses, pour pouvoir s'attirer de nouveaux adhérents. Ils embauchent par exemple des détectives privés pour se renseigner sur des personnes susceptibles de les rejoindre et révèlent des choses sur elles, faisant passer ces informations pour des intuitions divines. Les guérisons miracles aussi, du coup, qui vont permettre de bâtir le mythe. Il leur fait par exemple croire qu'il extrait les tumeurs des patients de leur bouche en cachant un foie de poulet dans sa manche en disant que genre, la tumeur, elle est partie.
C'est une science
ouais,
différente.
Voilà.
Ah, mais c'est l'effet placebo, un peu.
Ouais.
Il veut leur faire croire qu'ils vont mieux.
Oui, voilà, c'est ça. Mais, ouais. Et du coup, bah, ça permet d'accentuer le mythe, comme quoi c'est quelque chose de très religieux, etc.
Ouais.
La procréation, elle va être considérée comme un péché, donc avoir des enfants, c'est interdit un peu. Là-bas.
Ok.
Donc, il prétend être un prophète envoyé par Dieu tout en critiquant les autres religions. À cette époque-là, il y a environ 2 millions de personnes qui adhèrent au mouvement. Dans les années 60, Jim Jones il se met en quête d'une nouvelle ville pour son église après avoir eu la vision d'une attaque à la bombe atomique à Chicago. Et pendant toutes les années qui vont suivre, il va toujours croire qu'il va y avoir une apocalypse ou une guerre ou quelque chose comme ça. Donc, en 65, il déménage en Californie avec une bonne centaine de fidèles. Là-bas, les cours enseignés prennent une connotation qui est communiste. Il critique largement le gouvernement et ses enseignements, ils lui valent plusieurs plaintes, d'autant qu'il prétend être la réincarnation de Moïse, Lénine, Bouddha et Jésus-Christ.
Ah oui, ok, d'accord.
Ça fait beaucoup.
Ça fait quand même beaucoup. Dans ses discours, il resserre l'étau auprès de ses fidèles. S'ils ne se donnent pas à 100% pour le temple, Jones assure qu'ils seront réincarnés en cellules microscopiques. Plus les embrigadés abandonnent leur vie d'avant, plus ils sont considérés comme loyaux. Au début des années 70, alors que des soupçons rôdent à l'extérieur de la secte, le camp se militarise et en 73, Jones agresse sexuellement un policier déguisé en civil.
Ah, ça après, va un peu trop loin.
C'est... Un petit peu.
Mais en plus, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient, du coup, t'as dit des centaines et tout, enfin une centaine en tout cas.
Le mouvement en pleine dérivation.
Après cet événement, du coup, le Temple du Peuple, il déménage à San Francisco. Il passe de chef spirituel à devenir le père de la secte. Donc tout le monde l'appelle papa, etc. Et il commence à y avoir des actes sexuels à l'encontre des fidèles. Donc c'est pas rare de le voir coucher avec des hommes ou à humilier publiquement ceux qui ont péché. Donc c'est à cette période que la presse elle commence à s'intéresser au groupe, que des plaintes elles sont déposées pour tentative d'homicide, usage de drogue ou détournement de mineurs.
Ah oui.
Mais
beaucoup là.
Ouais. Mais le procureur de la ville il leur donne aucune enquête puisqu'il a lui-même été nommé grâce au gourou, grâce à Jim Jones, c'est lui qui l'a fait nommer quoi.
Ah oui, ok.
Donc l'étau se resserre encore autour d'eux et la secte prépare un plan pour quitter les États-Unis pour pouvoir vivre en autarcie. Donc le Temple du Peuple, il décide de s'installer à Guyana, un petit pays d'Amérique du Sud, au nord du Brésil. Ce choix, c'est pas le fruit du hasard. Le pays, il est socialiste et correspond aux valeurs véhiculées par la secte, mais il est également miné par la corruption, permettant à Jones de faire venir des centaines de membres sans aucun visa. Donc sur un terrain de 11 000 hectares dans la jungle, il fonde la colonie de Johnstown, une société socialiste, enfin dépouillée de tout racisme, de tout sexisme et de toute forme de discrimination. De façade, tout va pour le mieux pour ses familles. En vérité, Jim Jones, il fait vivre un enfer à ses 1200 disciples, en majorité des Noirs. Ouais. En majorité des Noirs américains, pauvres, enfants ou vieillards. Entre prise de drogue, famine et asservissement sexuel, il leur impose de travailler de l'aube à la nuit, 6 jours par semaine. La journée, les discours du gourou donc, sont diffusés sur des haut-parleurs. Il va instrumentaliser la peur en développant des thèmes comme la persécution ou la perspective d'une apocalypse imminente. Chaque semaine, Jones soumet les familles à une nuit blanche, étrange exercice au cours duquel les disciples doivent avaler et faire avaler à leurs enfants du faux poison. Pour lui, le suicide est la seule issue à la guerre que le gouvernement américain déclenchera un jour contre eux. La situation, elle dégénère lorsqu'un membre du Congrès américain, Leo Ryan, débarque à Guyana le 17 novembre 1978, après des plaintes de parents des fidèles. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à regagner son avion, il est assassiné avec trois journalistes par des hommes de Jim Jones. Au même moment, le gourou persuade ses fidèles que le politique est un agent de la CIA et que Johnstone est pris d'assaut par des marines américaines. Donc certaines personnes protestent, mais commencent à mourir, mêlées donc, aux applaudissements des fidèles pendant que les gens y meurent. Quelques rares personnes tentent de s'enfuir dans la jungle, mais ils sont rattrapés ou tués et contraints à s'administrer du poison.
Donc ils ne peuvent vraiment pas fuir, ils sont vraiment enfermés.
Oui, ils sont enfermés. Seules une vingtaine de personnes survivront, car le 18 novembre, Jones pousse au suicide 914 fidèles à Guyane, soit la plus grande perte humaine des USA avant l'attentat du 11 septembre 2001.
Oh purée.
Ouais. Le gourou, lui, il sera retrouvé d'une balle dans la tête, donc on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a été tué. Mais en tout cas, c'est vraiment une énorme histoire de suicide collectif qui a circulé partout à l'époque. La presse, ils l'ont décrit comme un véritable amoncellement de corps qui était autour de l'hôtel et que même le sol, il disparaissait à certains endroits tellement il y avait de cadavres, etc. Les gens qui étaient sur place là-bas, ils ont dit ça.
Et parce que tous les cadavres sont restés au sol, en fait. Ouais. Quand ils se sont suicidés, ils sont restés
là. Ouais, ils se sont suicidés tous ensemble, quoi.
Oui, puis 900 cadavres, ça en fait, hein.
Oui. Oui. Ah, donc, les nombreuses enquêtes consécutives au drame ont révélé les liens suspects de Jim Jones avec un bon nombre d'hommes politiques, comme par exemple, il y a la femme du président Jimmy Carter, les maires de San Francisco. Et du coup, on voit qu'au-delà des crimes commis par le gourou, celui-ci est venu en aide à des centaines de personnes démunies. Il a organisé des œuvres charitables et a même participé à la campagne de Jimmy Carter en 1976. Et tout ça, ça lui a assuré que de nombreuses personnes viennent en fait avec lui. C'est comme ça qu'il a réussi à ramoter plein de gens.
Purée.
Voilà, et ça lui a aussi permis, du coup, pendant des dizaines d'années, de passer entre les mailles du filet de la police et de la justice.
Ah bah super. Sacrée histoire, hein.
Donc en fait, il menait des mouvements partout.
Ouais,
Oui. De manière...
Bah dans les États-Unis, ouais, un peu partout.
De toute façon...
Il était très puissant, oui.
Ouais.
C'est vraiment violent. Merci Tess. Nous écoutons après le quiz général de Antonin et nous écoutons Back in Black d'ACDC.
Sound that news from the
L'Ashbet sur RCN.
Il est 14h13 et nous écoutons le quiz général d'Antonin.
Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec un questionnaire à choix multiples, donc voilà plusieurs questions, on en fait autant qu'on veut. Alors déjà on essaiera les questions, bon il y en a c'est pas possible, mais on essaiera évidemment de pas donner de propositions et on limitera à 3 maximum, enfin normal. Première question, au Moyen-Âge un ménétrier était... Alors déjà si ça vous dit quelque chose dites.
Alors ce nom me dit absolument rien personnellement, des petites propositions.
Ok, alors soit un musicien, 2 un palefrancier, un palefrenier, excusez-moi, 3 un facteur.
C'était quoi le premier?
Un musicien.
Un facteur, je dirais.
C'était quoi le mot de base?
Ouais, c'est que...
Le
mot de base.
Du Moyen-Âge.
Ah, un ménétrier.
Un musicien. Je sais pas, ça sonne...
Moi, je dirais le facteur.
Moi, je dis peut-être facteur. Ouais, peut-être facteur.
Moi, je sais pas.
Eh bien, il s'agissait d'un musicien, voilà. Donc, un ménétrier au Moyen-Âge, c'était un
musicien.
C'était
bien parti, Marco.
Ouais, mais après, je savais pas, donc j'ai dit en tout pif.
Ensuite, on surnomme Cariocas, on l'entend dans plusieurs chansons. Les habitants de, alors, 1, Rio de Janeiro, 2, Mexico ou 3, Lima.
Riocas ? Les Riocas ?
Cariocas.
Les Cariocas.
Entre le Rio de Janeiro ou
Mexico ou Lima.
Rio ?
Non, j'aurais pas dit Rio, justement.
Je pense que c'est trop simple pour que ce soit
ouais,
ça.
De ouf.
Ou alors c'est le piège.
Peut-être. Hein.
Moi, je dirais le Mexique.
Ouais, moi aussi, je dirais le Mexique.
Bah, du coup, non, il s'agissait de Rio de Janeiro.
Ah, ok.
Donc voilà.
Bien joué, Louise.
Les surnoms, les Cariocas, on l'entend souvent, en fait, des fois, dans des musiques également. 3. Ludwig van Beethoven eut un grand-père. Alors, 1. Empereur. 2. Pape. 3. Chef cuisinier.
Je pense que c'est chef cuisinier. Je sais pas.
Vas-y, moi je pars sur chef cuisinier, je suis un peu tentée.
Moi je dirais
empereur.
Moi j'aurais dit pape.
On aurait peut-être su après, non, si c'était empereur ou pape. Hein.
C'est vrai qu'il y a moyen que ça aurait été plus connu, effectivement.
J'avoue.
Donc oui, c'était plus chef cuisinier, c'est un peu plus logique, on va dire. Sinon oui, on l'aurait sûrement entendu parler. 4. Vous arrivez plus vite à faire bouillir. Alors, soit 1, du plomb, soit 2, du zinc ou de l'aluminium. Oui, je sais, je comprends.
Je peux pas répondre à ça.
Il n'y a aucun moyen de le savoir.
Enfin, du zinc.
Du zinc.
Ou de l'aluminium.
On suit Margot.
On suit Margot.
Donc, zinc ou aluminium?
Plouf, plouf, zinc.
Bah t'as de la chance. Donc on arrive plus vite à faire bouillir du zinc que l'aluminium et du plomb. Alors oui, on aurait tendance à penser que l'aluminium, comme c'est fragile, ça bouille plus. Bah apparemment non. 5e question. Dans l'Antiquité, la population de Rome a atteint, alors 1, soit 500 000 habitants, 2, 1,5 million d'habitants, ou 3, 3,5 millions d'habitants.
Rome ? Juste dans Rome ?
Oui.
J'aurais dit
3 millions, c'est énorme.
J'aurais dit 1,5.
Ouais, moi aussi, 1,5 million.
J'aurais dit 1,5 million.
Peut-être 1,5.
Allez, bah non, je me suis.
Carrément 3,5 millions.
Ah ouais,
vraiment,
c'est énorme.
Bah, la cathédrale d'un empire aussi grand, bah oui, il faut croire. Et bon,
ça pas groupe de la population.
C'est ouf. Et actuellement, ça a combien de...
Alors actuellement, ça doit même pas dépasser le million.
Oui. Après, Rome, maintenant, c'est plus petit que ce que c'était
voilà,
à l'époque.
Oui. Bah, avant, c'était la grosse capitale d'un empire qui faisait, qui prenait pratiquement toute l'Europe. Donc, oui, forcément, là, il y a moins. Mm. Et actuellement, on vient de me transmettre l'information. Là-bas, et c'est énorme. En 2021, donc, il y avait 2,76 millions.
C'est ah oui, quand même,
ouais, ça va trop changer, en fait.
Oh, waouh.
Oui, il y a eu juste même pas un million en moins. Oui, donc, en fait... Oui, bah du coup, c'est plutôt logique par rapport aux habitants en 2021. 6. Le Jean-Jacques Rousseau est le nom d'un train reliant. Alors, 1. Paris à Genève, 2. Strasbourg à Lille, 3. Paris à Londres.
Ah, c'est un train ?
Oui.
Le Jean-Jacques Rousseau.
C'est ça qui est drôle, c'est un peu une feinte.
Redis les destinations.
On peut avoir les destinations.
Soit 1. Paris à Genève, 2. Strasbourg à Lille et 3. Paris à Londres.
J'irai Paris à Londres.
Paris, oui.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de nom pour les voies...
Mais il y a un train qui fait Paris-Londres. Oui, c'est oui, le oui, okay, bah,
sous, sous la Manche, mais je crois okay. pas qu'il ait le nom là.
Ouais, j'aurais...
Il a bah, un nom oui, particulier. C'est pas l'Eurostar ou je sais pas quoi.
Non, oui,
pas
c'est, du c'est le nom du train.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est le nom du train.
C'est bah là, c'est ça aussi que ça. Tu demandes. Moi, je dis Genève. Non, pardon, Strasbourg. Je sais plus c'est quoi. Lille, Strasbourg.
Ouais, pareil.
Et ben, il s'agit donc de Paris à Genève.
Ah
bah personne ne veut.
Voilà. Comme ça, vous saurez. On donne le nom Jean-Jacques Rousseau à un train.
D'accord.
Alors le 7, lequel peut atteindre 90 km/h en pointe entre le thon, la baleine et l'espadron?
Le thon.
Le thon, mais l'espadron. Non.
L'espadron, c'est l'espadron, la baleine,
je pense.
Parce qu'après la baleine, ça peut aller vite, hein, je pense.
Oui,
moi je dis la baleine.
En gros, il y a moyen aussi.
Ouais. Elle fuse. Le thon, c'est trop petit pour ouais, aller pas trop loin
pour moi. J'aurais dit tout sauf
et justement,
le thon,
les petits poissons, genre quand tu les regardes, ils nagent vite.
Ouais, mais le thon, c'est trop.
Mais le courant l'emmène alors qu'une baleine. Elle est trop lourde pour l'emmener, tu vois. Je sais pas trop.
Moi, je reste
ou un espadron. L'espadron aussi, c'est énorme.
Ou espadron. Ouais. Moi, peut-être espadron.
Moi, je marche ouais. sur l'espadron pour moi.
Espadron. En fait, ouais. il s'agit de l'espadon, pas de l'espadron.
Espadon.
Il n'y a pas de verre, en fait.
Ah bah, c'est, okay. c'est l'espadon.
L'espadon. L'espadon.
Bon, bah, c'est effectivement ça.
Ok. Bon, bah, mon ton, tant pis pour toi.
Bah, allez, on en fait deux dernières, on va dire. Qui a déchiffré des hiéroglyphes égyptiens? Alors, 1, Saussure, 2, Champollion, 3, Michelet.
Je crois que c'est le premier. C'est quoi le premier?
Saussure.
Ouais.
Je crois que c'est Saussure.
Ouais.
Bon, bah, écoute, on va les écouter.
Je pense, oui.
Et bah, il s'agit donc de Champollion. Bon, bah, ouais.
Ah, bah non.
On dirait un peu Champollion.
Il a fait quoi, Saussure?
Ça me fait penser à ça, c'est incroyable.
On l'a vu.
Oui, on l'a vu.
Neuvième question, la principale richesse de l'Alaska est soit l'aluminium, l'élevage ou le pétrole?
Le pétrole?
Le pétrole,
le, ouais, le pétrole, non?
L'aluminium.
Il y a une qui pense différemment. Tu restes sur ta position. Oui, effectivement, c'est le pétrole. On a déjà dû en oui. entendre parler.
Mais c'est pour ça que les pays, ils se disputent pour, l'Alaska, c'est pour oui. les ressources.
Oui. Oui, c'est pour ça qu'on aurait trouvé, je pense. Allez, dernière question à la dixième. Qui était Tartaglia? Un grand patte. Mathématicien. Deux, un chirurgien. Et 3, un charlatan célèbre.
Un charlatan célèbre.
Ouais, vas-y, je dis charlatan aussi, c'est drôle.
Il a un nom de patte, alors.
Tartaglia, c'est... Non. Ah oui, je vois, oui. Comme... Tagliatelle et tout, ouais.
Ouais, ouais.
Non, il s'agissait donc d'un mathématicien.
Oh, ouais. Ah, sympa. Ah, ça peut porter un nom de théorème, ça sonne bien, en vrai, je comprends.
Le théorème de Tartaglia.
Ouais. Bah, quand tu apprends le théorème, t'as faim juste après.
Nous écoutons Under Pressure de Queen.
L'âge bête sur RCN.
Il est 14h23 sur RCN Radio et nous écoutons L'Âge Bête et nous avons Margot, tu nous parles des Nutri-Score.
Oui, bon, je pense que vous savez tous ce que c'est les petits
lettres,
les petites lettres en bas des produits qui nous disent si c'est sain ou pas. Ouais, avec le E. C'est vraiment un étiquetage nutritionnel pour viser les consommateurs à faire un choix plus éclairé niveau alimentaire en parlant. Donc, est-ce que vous savez comment ils se calculent ? C'est de A à E, du coup, mais comment on attribue ça ?
Bah, je pense qu'il y a des critères
oui, genre, particuliers, si c'est genre trop sucré, trop ouais. salé,
addictif aussi.
Addictif, voilà.
Comment ouais, le produit est conçu ?
Ouais, et bah, c'est à peu près ça, mais en gros, c'est une échelle de points qu'ils font. De points négatifs et de points positifs. Donc dans les points négatifs, il y a les calories, les sucres simples, les graisses saturées et le sodium, genre le sel. Dans les points positifs, on a les fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque, les fibres alimentaires et les protéines. Donc tout ça, ça va faire un nombre de points. Ça peut aller jusqu'à 40 dans les points négatifs, jusqu'à 15 dans les points positifs. Et ils font la soustraction des points négatifs avec les points positifs. Et ça nous donne du coup un score. Et ce score va être attribué à une lettre et donc une couleur. Mais ce score, il n'est pas, pas forcément fiable parce qu'il ne prend pas en compte la qualité des ingrédients. Par exemple, la différence entre les sucres gras, les sucres ajoutés et les sucres naturels. Il y a des sucres qui sont bien faits pour l'homme et tout. Et entre les graisses transformées et insaturées, par exemple, l'huile d'olive, elle va être mise en D parce que c'est gras, mais pourtant elle a des bienfaits pour l'homme et tout ça. Oui. Donc il ne faut pas toujours s'y fier, surtout qu'il ignore les additifs, les colorants et les conservateurs.
Ah donc les additifs, ils ne sont pas dedans.
Non, donc ça peut être ultra coloré, ultra plein d'additifs, mais il sera en catégorie A. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. L'objectif du Nutri-Score, du coup, c'est de faciliter la compréhension entre deux produits. Par exemple, tu regardes des céréales, tu compares les deux en fonction de si c'est plus ou moins sain, et encourager les choix plus sains et sensibiliser aussi les industriels à augmenter leur score pour se diriger vers un produit entre guillemets plus sain pour tout le monde. Mais il y a des exceptions. L'eau, par exemple, elle est automatiquement notée A. Les jus et les sodas, c'est une échelle spécifique utilisée. Les graisses et les fromages aussi. Donc voilà, faut pas toujours se fier à ça, ça veut rien dire. Par exemple, du beurre, on prend un petit bout, mais tout est calculé sur 100 grammes ou 100 millilitres. On prend un petit bout, ça n'a rien à voir. Donc voilà.
Mais il faut pas se mettre en tête que même si c'est D,
faut pas prendre, ou si c'est A, c'est A, génial pour ma santé.
En fait, faut se renseigner.
Voilà, faut bien regarder à chaque fois tous les ingrédients et tout ça, après, plus ou moins.
Oui, voilà. Merci beaucoup Margot. Nous finissons cette émission sur RCN Radio de l'émission L'Âge Bête. Nous retrouvons la semaine prochaine avec moi en tant qu'animatrice, avec Lucie, Noah et encore Antonin, comme avec son quiz général. Oui. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
À la prochaine.